Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, on va conclure avec quelques questions du public. On a Raymond qui nous précise avoir 76 ans et qu'elle est sur le point d'acquérir ce qui sera probablement son dernier véhicule. Qu'est-ce que tu lui conseilles entre le Nissan Rogue et le Toyota RAV4 dans le 9? Elle cherche un véhicule sécuritaire pour l'hiver.
Le nouveau Rogue est un produit vraiment, vraiment convaincant. Est-ce que j'aurais confiance au Rogue au même titre qu'au RAV4 pour le conserver 10 ans? Peut-être pas. Il est encore trop jeune pour se prononcer. On ne sait pas non plus si la fiabilité de cette transmission CVT va s'être améliorée comme il se doit.
Parce qu'on se rappelle que bon, ça a été problématique, là.
Voilà. Mais dans un cas comme dans l'autre, au niveau du rouage intégral, les deux s'équivalent assez bien. Et ce sont deux véhicules qui sont fardés d'éléments de sécurité. Donc, deux véhicules en lesquels j'aurais confiance pour une conduite, même parfois hasardeuse. Alors, ça m'inquiète pas, mais je privilégierais le Toyota RAV4, qui a cependant le défaut d'être un peu plus bruyant que le Nissan Rogue, ça c'est certain. Alors, c'est surtout pour la durabilité et la fiabilité à long terme que je privilégierais le RAV4, parce qu'au niveau de la conduite, les deux s'équivalent. Et si vous optez pour le RAV4 et que vous avez peut-être juste un petit peu plus de sous à mettre, la version hybride vaut vraiment la peine.
Oui, effectivement, version hybride qui est considérée par beaucoup d'acheteurs et avec raison d'ailleurs.
Bien, vous avez plus de puissance, plus de couple, un véhicule moins bruyant et...
Le système 4 roues motrices qui est plus efficace.
En plus, et pas besoin de vous dire que vous économisez 2 à 3 litres aux 100 km aussi.
Oui, c'est intéressant. On a Chantal qui magasine actuellement son nouveau véhicule et elle pense se procurer un Nissan Qashqai SV à 4 roues motrices 2021. Ce sera pour un achat et non une location. Elle est représentante sur la route et parcourt environ 30 000 km annuellement. Est-ce un véhicule fiable?
Très fiable, à l'exception évidemment de cette transmission CVT. Qui a présenté des problèmes même dans le Rogue 2017-2018. Alors, c'est peut-être l'élément qui, moi, m'agacerait. Donc, si vous faites 30 000 km annuellement, que vous voulez garder le véhicule très longtemps, peut-être considérer une garantie prolongée pour la transmission parce que c'est la faiblesse du véhicule. Sinon, ben il existe d'autres bons produits sur le marché. Je sais que Nissan est très agressif dans les prix actuellement. Alors, je comprends que ça c'est très convaincant. Vous allez payer quand même pas mal moins que pour une Subaru Crosstrek, que pour un Mazda CX-30, par exemple. Mais vous allez avoir un véhicule quand même solide. C'est bien construit, le Nissan Qashqai. La conduite est peut-être plus inspirante aussi que celle d'un Kicks ou même...
Oui, il y a une bonne marge là, entre le Kicks et le Qashqai.
Ah, oui, absolument.
Il y a un
mais
monde
c'est un,
là, entre les
mais
deux.
C'est un véhicule d'ancienne génération. Il faut savoir aussi que le véhicule sera complètement renouvelé pour 2023. 2022, ça change pas, mais le véhicule... pour 2022, il y aura une demi-année avant que le 2023 arrive. Donc, allez-y, mais j'ai un petit bémol pour la transmission CVT sur le long terme.
Dernière question, on a Malcolm qui se demande ce que tu penses de la Mazda Speed, la Mazda Speed 3 2010.
Une voiture qui était surprenante à conduire, évidemment, très performant, très puissant, mais pas nécessairement la voiture qui m'a le plus impressionné pour ses qualités dynamiques, parce que la puissance est là, ça ronronne, ça brasse, mais l'effet de coupe est très prononcé, et la durabilité des pièces mécaniques, c'est un problème sur cette auto-là. Une voiture qui n'est pas faite pour prendre toute cette puissance-là. Donc,
une voiture moins équilibrée qu'une GTI, par exemple, ou une WRX
de
la même année?
Absolument, mais il y avait beaucoup de puissance dans ce moteur-là, qui est un moteur problématique, qui est un moteur fragile, donc le 2.3 turbo-compressé. Les arbres de transmission, c'était fragile. Tout ce qui s'appelle pièces de suspension, bien évidemment, c'était pas nécessairement plus solide que sur une Mazda 3 régulière, mais ça composait avec une puissance plus forte, donc je te laisse deviner. Puis bon, la durabilité générale de cette génération de Mazda-là était peut-être pas à son apogée. Alors, tout est une question de condition de la voiture, mais mon petit doigt me dit que, ben, en fait, la très, très, très grande majorité de ces voitures-là sont déjà même plus sur la route parce qu'elles ont été brassées, battues, accidentées, modifiées,
beaucoup.
Ce que tu voudras. Si vous êtes tombé sur une perle rare complètement originale qui a été sauvée des mains de quelqu'un qui voulait la surexploiter, ben, tant mieux, allez-y. Mais autrement.
Mais sinon, on peut s'en méfier.
Ben
là.
Oui, exactement. Mais je connais pas beaucoup de gens qui ont acheté une Mazda Speed 3 pour rouler ça comme une Dodge Caravan. Là.
Non, effectivement, c'est assez rare.
Tu as des vacances, Germain?
Ça ressemble à ça. En tout cas, pour toi, moi, je vais continuer de travailler au bureau pour un moment, mais je me permets de te souhaiter d'excellentes vacances.
Oui, on va essayer ça. À très bientôt, tout le monde.